VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir l'Afrique, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Salle Plus avec Claire Morin-Gibourg. Mais d'abord, un tour d'horizon de l'actualité. Sans surprise, au Burundi, Pierre Nkurunziza est officiellement candidat à la présidentielle du 26 juin. Le président sortant a déposé sa candidature ce matin, malgré les manifestations depuis deux semaines dans le pays. Nicolas Pinault.
Oui, le président burundais s'est rendu ce matin à la Commission électorale nationale indépendante. À son arrivée, Pierre Nkurunziza a promis que les manifestations, devenues selon lui une insurrection, seraient maîtrisées d'ici peu. Le chef de l'État burundais a aussi assuré que les troubles ne concernaient que quelques quartiers de Bujumbura, mais que 99% du Burundi était en paix. « Je vous promets que les élections vont bien se dérouler », a-t-il ajouté. Les manifestants morts et les pressions internationales n'ont rien changé à Bujumbura, où la tension s'accroît avec le dépôt de cette candidature. Conformément aux accords d'Arusha, le président burundais a déjà effectué deux mandats et ne peut en effectuer un troisième. « Faux », répondent ses partisans, qui affirment que la constitution burundaise ne tient pas compte du premier mandat au suffrage indirect qui a porté au pouvoir Pierre Nkurunziza en 2005. Ce vendredi, les manifestations se sont poursuivies dans la capitale burundaise.
Et c'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité a entamé des consultations sur la crise au Burundi. Une rencontre qui se tient à huis clos à New York, d'après l'AFP. Pour autant, on ne s'attend pas à une déclaration formelle. Il faut dire que la Russie a bloqué de précédentes tentatives du Conseil de prendre position sur la controverse à propos d'un troisième mandat du président sortant Pierre Nkurunziza, arguant que le Conseil ne devait pas s'immiscer dans les affaires constitutionnelles d'un État souverain. En Guinée, la réunion prévue ce matin entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition guinéenne, l'ex-premier ministre Sélou Dalène Diallo, n'a finalement pas eu lieu. L'opposition dénonçant les violences et les exactions exercées par les forces de l'ordre sur leurs militants. Claire Morin-Gibourg a joint Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines, membre de l'opposition, pour lui demander quelles étaient les perspectives politiques de la Guinée.
C'est bien dommage que pendant 5 ans, nous ayons passé notre temps à discuter de problèmes qui, partout ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où il y a eu une crise post-électorale, au Mali, où il y a la guerre, au Niger, où il y a eu des choses de ce genre, ont été réglés en 8 mois, en 10 mois. Nous avons passé 5 ans pour cela. Il y a donc un problème ici, au niveau de la gestion du processus électoral, qu'il va falloir régler pour permettre à ce gouvernement de consacrer un peu plus de temps au développement économique et social de notre pays. Il ne faut pas oublier que la Guinée est un pays, 5 ans après l'arrivée d'Alpha Condé, où on n'a toujours pas d'eau, pas d'électricité, pas d'infrastructure de base, pas d'assainissement de la ville de Conakry. Donc il y a des tas de choses à faire que ces discussions qui n'en finissent pas et qui sont pourtant consignées dans des lois clairement compréhensible pour tous les Guinéens, à savoir qu'en 2011, on aurait dû terminer avec tout ça.
Est-ce que vous allez appeler à de nouvelles manifestations ?
L'opposition se réunira pour discuter de cette question dès demain.
L'ancien Premier ministre et membre de l'opposition guinéenne, Sidia Touré. 12 étudiants ont été blessés grièvement aujourd'hui par un kamikaze qui a ouvert le feu avant de se faire sauter à l'explosif devant un lycée de la ville de Postikoum dans le nord-est du Nigeria, une région régulièrement visée par Boko Haram. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon un policier et des témoins cités par l'AFP, l'assaillant qui portait une ceinture d'explosifs s'est suicidé après avoir épuisé ses munitions sans faire d'autres victimes. L'attaque a eu lieu devant le College of Administrative and Business Studies de l'État de Yobe. Les élèves attendaient de passer un contrôle de sécurité obligatoire devant la porte de l'école à la suite d'une série d'attentats à Potiskum, certains visant des établissements primaires et secondaires. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais la ville a déjà été visé à plusieurs reprises par les islamistes de Boko Haram. En novembre dernier, 58 personnes ont été tuées et 117 blessées par un attentat suicide contre une école secondaire proche du même collège. L'attentat avait été attribué à Boko Haram.
Nouvelle flambée de violences interethniques en République démocratique du Congo. Les Nations Unies indiquent que plusieurs dizaines de personnes ont été tuées fin avril, début mai, dans la province du Katanga. Des miliciens de groupes d'autodéfense Luba, Bantou, ont attaqué des sites spontanés mixtes où vivaient des déplacés pygmées et Bantous, ayant fui le conflit intercommunautaire, explique le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires. La tension serait toutefois retombée avec le renforcement des forces de sécurité de la MONUSCO. Accusation de viol d'enfants par les soldats français en Centrafrique, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'étonne que la France n'ait pas ouvert une enquête, qu'en juillet 2014, alors que les faits ont eu lieu entre décembre 2013 et juin 2014. Pour Zeid Rad Al-Hussein, un membre des forces armées françaises sur place, a forcément été informé des faits avant la remise du rapport, voire quand ils se sont produits. Quelqu'un était au courant et n'a rien dit. Il est impossible de croire que ces soldats aient agi sans que personne d'autre ne soit au courant, a-t-il déclaré. Migration vers l'Europe, la marine allemande a sauvé 200 migrants au large de l'île italienne de Lampedusa. Ils se trouvaient à bord d'une embarcation en bois, d'après le gouvernement allemand cité par l'AFP. Par ailleurs, la marine royale marocaine a empêché plus d'une centaine de migrants de traverser illégalement le détroit de Gibraltar vers l'Espagne à bord d'embarcations de fortune au cours des derniers jours. Rien qu'aujourd'hui, un groupe de 40 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne ont été empêchés de partir. Ils s'apprêtaient à prendre le large à bord de 4 embarcations pneumatiques, dont une motorisée, d'après les autorités de Tanger.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Grande-Bretagne, le verdict des urnes a fait mentir tous les sondages. Les grands vainqueurs des législatives d'hier sont les conservateurs et les nationalistes écossais. Le Premier ministre David Cameron va former un gouvernement 100% conservateur et Ed Miliband a offert sa démission à la tête du Parti travailliste, un geste posé par d'autres dirigeants suite à cette cuisante défaite. Idriss Fall.
Ed Miliband a dit qu'il avait cru jusqu'au bout à la victoire, mais a annoncé aujourd'hui que le Labour Party a besoin d'un nouveau chef de file. Ed le Rouge, comme on le surnomme, a été confortablement réélu dans son fief de Doncaster, dans le nord de l'Angleterre, mais des figures importantes de son parti, y compris son directeur de campagne, ont été éliminées. Le choc est d'autant plus dur que les instituts de sondage avaient prédit jusqu'au bout de la nuit des résultats très serrés. Les travaillistes ont perdu 26 sièges et n'ont que 232 au futur Parlement, loin derrière les conservateurs qui remportent 331 sièges, beaucoup plus que la majorité absolue de 326 élus. David Cameron va donc rempiler pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du gouvernement britannique.
Et cette mort dans le crash d'un hélicoptère dans le nord du Pakistan, dont les ambassadeurs des Philippines et de la Norvège et les épouses des ambassadeurs de Malaisie et de l'Indonésie. Perdant et gagnant aux élections britanniques se sont retrouvés côte à côte ce vendredi pour participer aux cérémonies commémorant la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en 1945. En Grande-Bretagne, 3 jours de célébration ont débuté aujourd'hui. En France, le président François Hollande a lancé un appel à l'unité à l'occasion de ce 70e anniversaire. Pour le président français, nous célébrons aujourd'hui la victoire d'un idéal sur une idéologie totalitaire. À Washington, le président Barack Obama a rendu hommage aux combattants de la Seconde Guerre, disant d'eux, je cite, « C'est la génération qui a littéralement sauvé le monde ». En Russie, la commémoration de la fin de la guerre se fera demain samedi avec une grande parade sur la place Rouge de Moscou en présence de plusieurs dignitaires internationaux. Des milliers d'Iraniens ont manifesté aujourd'hui contre les raids de l'Arabie Saoudite au Yémen. L'Iran soutient les rebelles houthis chiites, tandis que le royaume saoudien et ses alliés du Golfe sont venus en aide aux sunnites, partisans du président renversé par les houthis. Selon l'ONU, le conflit yéménite a fait plus de 1400 morts et plus de 6000 blessés depuis la mi-mars. Ce vendredi, les frappes de la coalition ont fait au moins 13 morts. Les États-Unis et d'autres puissances ont appelé cette semaine à une trêve humanitaire au Yémen. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Au micro, Morgane Diriec, et je laisse ma place à Claire Morin-Gibourg dans Sahel+.